Et l'on va débuter par exemple eh bien, par le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Il faut rester solidaire des personnes vulnérables. Voilà ce qu'il faut retenir du point presse hebdomadaire d'Olivier Véran hier soir. Et nous entendrons dès le début de ce journal des étudiants qui se ruent sur des colis alimentaires à Marseille pour vivre en ces temps de crise sanitaire et économique sans petit boulot à cause du confinement.
Et ce n'est pas d'actualité de déconfiner le pays, a prévenu Olivier Véran. Davantage de tests de protection dans les EHPAD, à quand des tests salivaires, demandent les personnels.
Le Covid qui dicte décidément le calendrier de la fin de l'année, la grande opération promotionnelle du Black Friday pourrait être décalée d'une semaine, une victoire pour Bercy.
Et puis à la une encore, le Royaume-Uni de Boris Johnson investit massivement dans le secteur de la défense.
L'équivalent de plus de 18 milliards d'euros, du jamais vu depuis 30 ans, ambition devenir la première puissance navale en Europe, alors que le pays quitte l'UE.
Et puis, dans une dizaine de minutes, vous le savez, Catherine, tant que le virus sera là, il sera là, Nicolas Martin, dans une dizaine de minutes, pour une radiographie du coronavirus.
32 314 personnes sont toujours hospitalisées en France à cause du Covid-19. C'est 500 de moins en 24 heures. Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a souligné hier soir. Si les indicateurs s'améliorent, la pression sanitaire reste extrêmement élevée en France et cela pèse sur chacun.
On le nomme mal-être, ras-le-bol, stress, anxiété, déprime. L'impact psychologique de l'épidémie et plus encore du confinement est réel.
Comme Olivier Véran l'expliquait hier soir, la crise bouleverse toutes les vies. Entre vie sociale réduite et perte de travail, des étudiants par exemple n'arrivent plus à s'en sortir. Depuis le reconfinement, la fédération Aix-Marseille Interasso distribue des colis alimentaires sur des campus, comme à la faculté Saint-Charles, où la demande est très forte. Le reportage de Romane Porcon à Marseille.
Dans la longue file d'attente, Léa, étudiante en première année de philosophie, croise les doigts pour repartir avec un colis.
Je suis venue hier pour la première fois. Je suis arrivée une heure avant la fin et il n'y en avait plus. Elles nous ont dit qu'ils avaient doublé les demandes. Donc je réessaye aujourd'hui et j'espère que j'en avoir un. Quoi. Avec la crise, en fait, je travaillais en hôtellerie, j'ai été licenciée. Donc je me suis retrouvée sans travail avec un appartement étudiant à payer. C'est compliqué pour manger. On a presque un peu honte en fait. Je me dis que j'ai pas le choix et qu'il n'y a pas que moi. Et c'est normal pour un étudiant d'avoir besoin d'aide et de demander des aides aujourd'hui.
Ferrel repart avec quelques légumes, des fruits et plusieurs boîtes de conserve. Sans ça, elle ne s'en sortirait pas.
Je fais de l'aide aux devoirs à des enfants, je gagne 130 euros par mois. C'est compliqué avec les abonnements, le loyer, tout ça. Heureusement qu'il y a des aides comme ça, sinon je ne me permettrais pas de manger, on va dire, 3 repas par jour.
Cette distribution, c'est aussi l'occasion de se retrouver entre étudiants. Chiara Badalucco est membre de la fédération Aix-Marseille Interasso.
On a aussi des étudiants qui viennent nous dire voilà, qu'ils se sentent isolés et du coup c'est un peu à nous de leur donner des numéros à qui ils peuvent s'adresser. Psychologiquement ils ont quand même plus de difficultés et financièrement ça s'ajoute. Il y en a qui ont encore une fois plus la possibilité de travailler. On fait du mieux qu'on peut et pour un peu les aider. Voilà.
Avec 1000 colis alimentaires distribués en une seule journée.
Un reportage signé Romane Porcon de France Bleu Provence. Eux réclament des moyens supplémentaires pour faire face, je cite, à une crise sociale d'une ampleur dramatique. Des maires écologistes qui ont pris la tête de villes comme Bordeaux ou Strasbourg ont écrit une lettre ouverte au Premier ministre pour se faire le relais des situations dramatiques donc qu'ils observent sur le terrain et de demander d'ouvrir par exemple le RSA aux moins de 25 ans. Prenant ainsi au mot les messages de l'exécutif, une mobilisation quoi qu'il en coûte face à la crise et solidarité donc avec les plus vulnérables. Vulnérabilité sanitaire aussi, rappelons-le, tarache légale car si l'on constate un léger recul de l'épidémie, les ministres incitent à la prudence.
Malgré le ralentissement du virus, il faut poursuivre le confinement et rester solidaire des personnes vulnérables. Voilà le message principal que les responsables politiques voulaient délivrer. Certes, le fameux R, qui mesure la circulation du SARS-CoV-2, est passé sous la barre du 1, ce qui veut dire que les contaminations sont moins rapides. Mais la pression sur l'hôpital reste très forte. Plus de 32 000 malades hospitalisés, dont 4 653 encore en réanimation. Si on y ajoute les 3 500 patients qui sont admis dans ces mêmes services en ce moment pour des AVC, des infarctus et d'autres motifs, on voit qu'avec plus de 8000 malades, la charge qui pèse sur les services de réanimation en France est encore trop forte. Il ne faut pas relâcher l'effort. Et puis, le directeur général de la Santé a livré le chiffre des décès. Plus de 47 000 personnes ont succombé au nouveau coronavirus, dont 14 530 personnes âgées résidant dans les EHPAD. D'ailleurs, le gouvernement a tenu à faire un point sur ces structures. Elles sont moins frappées qu'au printemps. Un EHPAD sur deux était alors touché. Cette fois, un établissement sur cinq signale des patients Covid. Mais pour éviter que l'étincelle prenne, les autorités demandent au personnel des EHPAD de se tester systématiquement désormais une fois par semaine.
Des tests nécessaires mais pénibles si l'on ne change pas de méthode rapidement, estime Florence Arnaise-Maumet, déléguée générale du CINERPA, le premier syndicat des maisons de retraite privées.
De toute façon, le renforcement des tests pour les personnels, pour les résidents, voire pour les proches aidants qui viennent dans l'établissement est la démarche que nous devons avoir à partir de maintenant le plus régulièrement possible. Malheureusement, le mode de prélèvement, qui est quand même encore et toujours nasal, est difficile à faire toutes les semaines. Il faut bien reconnaître que les personnels en ont un peu assez d'avoir des tests permanents. On attend beaucoup des tests salivaires, si un jour on les voit, parce qu'aujourd'hui, le mode de prélèvement de l'antigénique, même si effectivement en 30 minutes on a les résultats, ça reste un prélèvement nasal. Toutes les semaines, c'est difficile.
Florence Arnaise-Maumet, déléguée générale du CINERPA, le premier syndicat des maisons de retraite privées. Sur le front sanitaire, une demande d'autorisation en urgence du vaccin contre le Covid-19 développé par l'alliance Pfizer-BioNTech devrait être déposée aujourd'hui aux États-Unis, où les autorités ont pris une nouvelle série de restrictions pour endiguer la pandémie à l'approche des fêtes de Thanksgiving.
7h06, c'est justement à l'occasion de Thanksgiving, Catherine, une journée de promotion partie des États-Unis à essaimer dans le monde. Le fameux Black Friday, il devrait être repoussé en France d'une semaine.
Du 27 novembre au 4 décembre, le directeur général d'Amazon France a accepté la proposition de Bercy hier pour laisser au commerce le temps de rouvrir. La preuve que la pression politique peut payer selon les syndicats. Question d'image aussi pour Amazon. D'autres géants de la distribution ont emboîté d'ailleurs le pas d'Amazon. L'accord doit être peaufiné aujourd'hui à Bercy avant de décider d'une potentielle réouverture des commerces dits non essentiels, Sophie Auvigne.
Officiellement, il y a trois conditions pour que les commerces rouvrent le 27 novembre ou le 28 ou peut-être le 1er décembre. La situation sanitaire doit continuer comme c'est le cas à s'améliorer. Il faut un nouveau protocole sanitaire de long terme, imaginé pour durer sans doute plusieurs mois et que des scientifiques auront à valider en début de semaine. Et puis, réouverture ne peut pas signifier ruée dans les commerces, donc pas de promo folle ce jour-là. Le Black Friday, ce sera le 4 décembre, une semaine après la date prévue. Très vite hier, Leclerc et Carrefour ont donné leur accord. Amazon a entretenu le suspense plusieurs heures, peut-être le temps d'expliquer à son siège américain le principe de l'exception française, parce que le monde entier va maintenir le Black Friday au 27 novembre. Mais l'ultime feu vert sera donné par l'Élysée et Matignon, sans doute la semaine prochaine, avec la date de réouverture des commerces tant attendue.
De son côté, Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France, suggère de travailler tous les dimanches d'ici la fin de l'année, avec peut-être des nocturnes et des amplitudes horaires étendues pour attirer un maximum de clients en physique dans les magasins. L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir a elle aussi réagi sur Twitter aux discussions sur le Black Friday en estimant que le gouvernement devrait avant tout chercher à encadrer, je cite, ce genre de promotion bidon. Face aux polémiques tous azimuts sur le droit à l'information, l'exécutif a annoncé amender l'article 24 controversé de la proposition de loi Sécurité globale, encadrant l'image des policiers en y garantissant la liberté d'informer. Lui veut mieux prendre en compte la parole des enfants dans les lois qui les concernent et dans la société en général. En cette journée mondiale de l'enfance, le défenseur des enfants en France, Éric Delemar, qui vient de prendre ses fonctions, exhorte les adultes à associer les jeunes aux décisions qui les concernent, donc Cécilia Arbona.
Nommé il y a à peine une semaine défenseur des enfants, Éric Delemar affiche sa priorité. Il veut associer les plus jeunes aux décisions qui les touchent directement.
Pouvoir les consulter à chaque fois qu'il y a un projet de loi à l'Assemblée nationale concernant les enfants. Alors nous avons déjà ce type d'Assemblée nationale des enfants, je pense aussi aux conseils municipaux des enfants. Nous avons à peu près, en France, me semble-t-il, 2000 conseils municipaux sur 37 000 communes. Alors nous proposons d'organiser concrètement ces prises de parole de l'enfant.
Son autre combat, c'est d'alléger le fardeau de certains enfants qui se retrouvent aidants de leurs propres parents.
Est-ce qu'il n'y a pas là des invisibles, c'est-à-dire des enfants qui se retrouvent avec l'absence orphelin d'un parent, pourvoient sur soi à plein de besoins primaires, alimentaires, de courses, etc., qui les empêchent d'investir totalement leur statut d'enfant, d'aller à l'école parfois, d'arriver en retard, de faire leurs devoirs, etc. Et puis des enfants aussi dont les familles, par accident de la vie, l'un des membres et l'un des parents se retrouvent en situation de handicap.
Ces enfants-là auront peut-être plus de mal à s'investir dans le projet de participation d'Éric Delemar, car ils auront des urgences à régler d'abord à la maison pour pallier l'absence ou la défaillance d'un proche.
Il est 7h10 sur France Culture. L'Azerbaïdjan a repris ce matin le contrôle du district d'Agdam, cédé par les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh, au terme d'un accord de fin des hostilités sous le patronage de Moscou. Un accord qui a mis fin à 6 semaines de guerre. Il s'agit de la première de 3 rétrocessions à l'Azerbaïdjan de territoire contrôlé par les forces arméniennes depuis près de 30 ans. À quelques semaines du Brexit, Londres met le paquet sur ses dépenses militaires. Un choix stratégique pour Boris Johnson. Le Premier ministre espère ainsi assurer à son pays une place de puissance mondiale. Maxence Peignet.
Alors que beaucoup au Royaume-Uni s'inquiètent du déclin de Londres sur la scène politique internationale, le Premier ministre Boris Johnson vient de promettre plus de 18 milliards d'euros pour ses forces armées. C'est le plus vaste investissement militaire du pays depuis les années Thatcher et la guerre froide. Principaux postes de dépenses pour les 4 ans à venir, la cybercriminalité et l'espace. Le gouvernement doit annoncer la création d'une agence de l'intelligence artificielle, d'une unité nationale informatique et d'un commandement spatial dans l'espoir de lancer sa première fusée en 2022. Boris Johnson a indiqué avoir pris cette décision en dépit de la pandémie parce que la défense du royaume doit passer en premier. Certains analystes y voient aussi une manière de faire les yeux doux aux États-Unis de Joe Biden en se présentant comme un partenaire fiable après le Brexit. Pourtant, il n'est pas sûr que cela suffise à faire l'unanimité outre-Manche, alors que le coronavirus a déjà fortement malmené les finances de l'État et que des milliards pourraient être retirés du budget pour l'aide internationale.
À suivre dans le journal de 7h30, le dernier jour de campagne électorale au Burkina Faso. Dimanche, les citoyens de ce pays d'Afrique de l'Ouest devront choisir un nouveau président et désigner leurs députés dans un contexte sécuritaire toujours tendu. Reportage à suivre de notre envoyé spécial donc à 7h30. Le temps de ce vendredi 20 novembre agité avec des pluies en Corse et un vent assez fort dans le sud-est, des éclaircies partout ailleurs. Au meilleur de la journée, il fera entre 7 et 12 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, comptez de 11 à 18 au sud, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, la radiographie du coronavirus, Nicolas Martin.